et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 février et nous allons parler aujourd'hui évidemment de plusieurs sujets qui font l'actualité ou en tout cas qui font ici bouger la Mayenne, votre département. Et on va aller d'abord du côté de Mélédumène où le méthaniseur continue son activité depuis 2 ans déjà maintenant et justement a besoin d'un projet en tout cas pour stocker et gérer en fait ces fluctuations de demande au niveau du gaz. Nous verrons justement comment ils vont se débrouiller. Et puis on est aussi allé à la rencontre des services civiques qui dans les EHPAD apportent du lien social avec ces personnes âgées, entretiennent ce lien social avec des animations ou tout simplement une présence, des échanges. Nous entendrons leurs témoignages lors de l'interview. Et puis on va commencer aussi un nouveau feuilleton cette semaine. Et oui, ça, c'est la première semaine des vacances scolaires et on vous donne quelques petites idées d'activités à faire sur le territoire. Et on commence par une exposition interactive à la médiathèque de Château-Gontier avec une ambiance très thriller médiéval, vous l'entendrez, ça ce sera en fin d'émission. Et comme chaque lundi, évidemment, on retrouve un nouveau coup de cœur lecture de la librairie Émir Anjou. Là aussi, soyez patients, ce sera en fin d'émission. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité. Avec une manifestation pour de meilleurs salaires aujourd'hui, c'est celle des salariés de l'usine Bell à Évron qui sont en grève depuis ce matin à l'appel de la CGT alors que leurs salaires sont en pleine négociation. La direction propose une hausse de 2,9%, un chiffre bien insuffisant pour les salariés au regard de l'inflation. Les urgences de Laval, elles, ferment la nuit toute cette semaine. Une nouvelle fois, le service ne sera pas ouvert de 18h30 à 8h30 dès ce soir et jusqu'au lundi 14 février au matin, faute de médecins urgentistes en nombre suffisant. Une situation déjà connue ces derniers mois. Avant de vous déplacer, il vous faut appeler le 15 ou le 116-117. Et pour vous faire tester cette semaine en Mayenne, vous pouvez vous rendre à Château-Gontier au Parc Saint-Fiacre du lundi au vendredi de 8h à 13h ou bien au Palindrome à Laval du mardi au vendredi. D'autres opérations de dépistage ont lieu aujourd'hui à Ernée et à l'Huisserie, demain à Quelaine-Saint-Gaud et Loiron, mercredi à Ambrières-les-Vallées et Bonchamp, jeudi à Évron et vendredi à Cossé-le-Vivien et Louvarnay. 250 000 à 300 000 personnes risquent de perdre leur passe vaccinale dans la région d'ici 8 jours, si et seulement si elles n'effectuent pas une dose de rappel d'ici le 15 février, prévient l'ARS des Pays de la Loire. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site santé.fr et pour l'instant 55,7% de la population mayennaise a reçu, elle, sa dose de rappel. Un blessé grave dans un accident de la route à Bressé ce week-end. Il a eu lieu à la Gesberdière samedi vers 11h. 2 véhicules sont entrés en collision. Une jeune femme de 18 ans a été grièvement blessée et ensuite évacuée par hélicoptère au CHU d'Angers. L'autre conducteur, un homme de 35 ans, a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Mayenne. En football, le Stade Lavallois s'installe sur le fauteuil de leader, au moins jusqu'à ce soir, puisque les Tangos se sont imposés vendredi 1-0 contre Bastia Borgo et sont désormais seuls en tête du classement de National avant la rencontre ce soir entre leur dauphin Concarneau et Villefranche. À Mélédumène, le méthaniseur se développe et se dote d'un stockeur d'énergie. En service depuis 2 ans, le méthaniseur est fourni en déchets agricoles par la société d'agriculteurs Métamène et gérée par celle-ci. Elle produit la consommation en gaz de 100% des habitants de Mélédumène en été et 50% en hiver en ce moment. Mais pas toujours facile de faire face aux fluctuations de cette demande, alors un tout nouveau projet Flores va être mis en service début mars, comme l'explique Benoît Dutertre, le président de Métamène.
L'objectif du projet Flores, c'est de pouvoir mettre en conformité nos contraintes d'exploitants, de producteurs de biogaz et les contraintes de réseau et des consommateurs. Notre grosse difficulté, c'est qu'en été, la consommation sur la ville de Mélet est très très fluctuante. Quand la fromagerie Perrault consomme du gaz, ils en consomment beaucoup et on a du mal à fournir. Par contre, quand la fromagerie ne consomme plus, les week-ends ou le vendredi, eh bien la consommation baisse terriblement et là, très rapidement, le réseau est saturé. Et nous sommes obligés de stocker. Et donc, ça implique de gérer la production des bactéries et je dirais même de faire fluctuer la production de cette bactérie. Et ça impacte nos soucis d'exploitation de façon beaucoup trop contraignante. Et là, le stockeur va nous permettre de lisser l'ensemble et de pouvoir stocker dans les bonbonnes l'excédent de biométhane quand le réseau est saturé et de le relarguer quand la fromagerie a besoin de beaucoup de gaz.
C'est le premier projet de ce type en France, précise Éric Feuillet, c'est le chef de programme prospective et recherche et développement pour GRDF sur la région Centre-Ouest. Projet qui permet de stocker l'équivalent ici d'une nuit de production de gaz.
Alors à quoi ça ressemble ? Il y a des stockages de gaz sous forme de longues bouteilles, de longs racks de bouteilles, et puis un conteneur qui contient tous les équipements de compression, de pilotage. C'est un outil qui va servir à finalement injecter plus facilement et plus de gaz renouvelable dans le réseau, de bien mettre en adéquation des productions locales de gaz qui sont continues et une consommation sur un réseau de distribution qui est tout sauf continu, c'est-à-dire très variable en fonction des besoins des clients, qu'ils soient industriels ou domestiques. Quand la consommation tend à baisser sur le réseau, mais que le producteur de biométhane, lui, veut injecter son biométhane, eh bien la pression sur le réseau va monter. Donc on va détecter cette pression et on va déclencher des compresseurs qui vont créer du soutirage en vue de stocker le gaz dans des bonbonnes, on va dire, en attente. Et puis en période où la consommation reprend, on va redétendre le gaz vers le réseau. Donc ça va créer une sorte de respiration et d'injection différée du gaz, mais au moment où finalement tout le monde en a besoin, quoi. C'est une façon aussi de garder la valeur sur le territoire, là où elle est produite. Et la valeur ici, c'est ce gaz renouvelable produit à partir des déchets, notamment agricoles.
Et ce projet Florès, comme je vous le disais un peu plus haut, va donc démarrer d'ici quelques semaines pour une année d'expérimentation au total. On va parler de complètement autre chose là lors de l'interview, de cette mission en service civique qu'ont accompli une demi-douzaine de volontaires dans les EHPAD mayennais, dans certains EHPAD. Une mission qu'ils ont trouvée très, très riche, très enrichissante, vous l'entendrez juste après la pause musicale assurée par The Kills. On écoute Siberian Nights.
Seven seas. Is that too?
matin dans l'agité du local sur l'autre radio. On vient d'écouter Siberian Nights, The Kills. Et tout de suite, on va passer donc à l'interview avec ce portrait de jeunes qui ont aidé dans la lutte contre l'isolement à tout point de vue des personnes âgées. Ils étaient en service civique pendant 8 mois dans plusieurs EHPAD du département. C'est une mission donc qu'ils ont réalisée avec Unicité. Au départ, l'objectif, c'était d'accueillir en tout cas 18 volontaires au sein de 5 établissements. Bon, par manque en tout cas de vocation, 9 jeunes ont été accueillis. Ils étaient 4 à aller jusqu'au bout de ce parcours. Et pendant leur mission, ils ont réalisé différentes actions collectives, avec notamment, cette liste est non exhaustive, de la gymnouse, une fresque collective, de la pâtisserie, des balades en plein air, mais aussi des visites individuelles. Parmi les 2 binômes qui ont réalisé le parcours jusqu'au bout, un l'a été à l'EHPAD Pierrine Tullard à Évron et un autre à l'EHPAD Victor Briel à Méral. Et ils ont souhaité témoigner justement à la veille de la fin de leur mission pour inciter d'autres jeunes à s'inscrire et à aussi vivre cette belle expérience.
Donc je m'appelle David, j'ai 20 ans, volontaire en service civique.
Je m'appelle Agathe, j'ai 20 ans.
Et moi c'est Christina, 21 ans.
Sur cette même mission de service civique, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement en quoi elle a consisté ?
Du coup, notre mission, elle consistait à faire des animations en EHPAD pour lutter contre l'isolement social des personnes âgées. Et du coup, on a été tous assignés à des établissements et on y allait le lundi, mardi et mercredi. On faisait des activités, on prenait des notes qui ont servi justement à la présentation pour les chiffres. Donc maintenant, de voir ça, ça nous montre vraiment l'impact qu'on a eu. Mais mis à part les activités, il y avait aussi une vraie vie, parce que on est arrivé dès 8h30 pour ma part, et donc on entre tout de suite dans le vif du sujet. On a des personnes qui ne sont pas prêtes le matin et qui nous arrêtent dans les couloirs, qui nous demandent si et ça, parce que des fois, ils n'avaient pas forcément le... Enfin, ils avaient peur de demander à des membres du personnel en pensant qu'ils étaient débordés, et parfois c'est le cas. Donc en nous voyant, nous, en voyant qu'on ne fait pas partie du personnel, ils avaient beaucoup plus de facilité à venir nous parler de certains problèmes. Et c'est pour ça que, mis à part les activités, il y avait aussi beaucoup d'accompagnement, je pense, individuel de la part des résidents.
Oui, nous, on avait plus de temps que le personnel. On était vraiment là pour eux et pas pour leurs soins, ce qui est différent, surtout pour eux. Et ils nous l'ont beaucoup dit d'ailleurs, qu'ils voyaient qu'on prenait le temps, et c'était important pour eux. En plus, on est tous venus avec plutôt des projets ou des choses à leur montrer différentes. Comme Pauline qui est à côté, qui elle a pu montrer des choses de sa formation bien-être, des soins, des massages. Moi, j'ai pu montrer un peu un côté artistique, le milieu dont je viens au départ. Le côté diversité s'est bien vu au travers des activités qu'on a présentées, qui étaient différentes vraiment selon les personnes, selon les EHPAD. On a vraiment pu faire des choses... assez unique avec eux et partager beaucoup de bons moments. Pour moi, c'est surtout des moments en privé où au final ils nous racontent leur vie, qui sont assez touchantes, et où on peut vraiment être proche, parce qu'on sait que personne sera là ni pour nous juger nous, ni pour les juger eux, et que ce sera que de la bienveillance. Des moments comme ça, je pense qu'en fait on en a beaucoup, et c'est selon les résidents. On pourrait pas en nommer un seul, étant donné qu'on a eu vraiment des liens uniques avec beaucoup de résidents.
Les entretiens individuels se font non seulement par rapport à notre profil à nous, à ce qu'on sait faire, mais aussi par rapport au profil de la personne qui bénéficie en fait de l'activité. Donc c'est-à-dire que nous on a nos propres qualités, mais en même temps au fur et à mesure de la mission, on apprend à connaître les résidents, on apprend vraiment à savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, et du coup on fait en sorte que les activités rentrent vraiment dans leur volonté. Il y a des entretiens individuels que, par exemple, moi, je faisais spécialement avec telle ou telle personne, parce que c'est des choses qui n'intéressaient pas les autres, mais étant donné que ça intéressait quand même cette personne, c'était quand même important de continuer à le faire.
En fait, c'est pas un moment type. Je pense que c'est vraiment tous les moments quotidiens, les petites visites en chambre, les petits moments qu'on passe ne serait-ce qu'avec eux, à leur tenir compagnie, les rassurer quand ils étaient un peu angoissés ou ils étaient complètement désorientés. C'est vraiment le fait de se rendre utile et de servir à quelque chose, tout simplement. Oui, je pense que ça va vraiment me servir pour plus tard. Alors j'ai trouvé ma voie, donc... on va poursuivre comme ça. Hein. Mais j'ai vraiment senti à l'aise dans mon... j'étais dans mes éléments, donc j'ai foncé, quoi. Justement, je sais pas du tout. J'ai entendu parler d'apprentissage, alors je suis en train de me renseigner auprès des CFA de Laval, peut-être.
À un moment, j'avais pas ma tenue jaune parce que quand le pull est pas totalement sec de la machine, on peut pas vraiment le mettre. Donc j'étais habillée en civil, si on peut dire. Et j'ai toqué à la porte d'un monsieur que j'allais voir régulièrement. Et j'ai ouvert la porte et il avait l'air très troublé. Et je lui ai dit, c'est moi, Christina. Et à ce moment-là, il m'a dit, je vous ai pas reconnue. Je vous ai pas reconnue sans le pull jaune. Et si vous m'aviez pas dit votre prénom, même en vous approchant, je vous aurais pas reconnue. Donc je pense que ça a fait l'effet escompté.
Les équipes ont tenu à faire en sorte qu'on fasse partie de l'équipe dans tous les EHPAD. Et on a vraiment été bien accueillis de ce côté-là. Et pour les résidents, même si on arrive un peu dans leur train-train quotidien, dans leur vie, dans leur routine, ils nous ont aussi très bien acceptés. Certains ont mis un peu plus de temps que d'autres. Mais moi, je sais que j'ai eu la chance surtout d'être proche avec les personnes qui, justement, ont du mal avec le personnel en général, étonnamment. Et je pense que tout le monde a eu des liens avec des personnes différentes parce que affinités, caractères différents, et ça a très bien marché. Dans l'ensemble, presque tous les résidents ont pu bénéficier de notre bienveillance, et en retour, ils ont été tout aussi bienveillants.
Étant donné que nous, on travaillait avec l'animatrice, en fait, on l'accompagnait dans tout ce qui est animation. Et souvent, l'animatrice, elle disait, Pauline et Christina, elles sont en service civique chez nous, elles vont vous aider pour ça ou ça et tout ça. Et ce qui fait que du coup, ils nous ont justement reconnus grâce aux gilets jaunes. Et que maintenant, quand ils nous voient dans les couloirs, ils savent que qu'ils peuvent nous interpeller n'importe quand, pour n'importe quoi ou voilà.
J'aimerais juste rejoindre David sur ce qu'il disait par rapport aux membres du personnel. Vraiment, même à Évron, c'était vraiment une très très belle expérience. Ils ont vraiment été là pour nous. On s'est vraiment tout de suite senti inclus dans l'équipe. Et comme je disais, certains résidents en fait avaient plus tendance à venir nous voir pour certaines choses parce qu'ils pensaient que l'infirmière, que les ASH n'avaient pas forcément le temps de voir ça. Et quand un résident vient nous voir et nous dit j'ai mal ici, mais j'ose pas en parler, finalement c'est là aussi qu'on intervient, pas que dans le moral, mais aussi dans la santé. Nous on fait remonter l'information jusqu'à quelqu'un qui pourrait régler le problème, parce que oui, c'est vrai que c'est énormément arrivé pour ma part que des résidents viennent me voir en m'exposant des problèmes qu'ils avaient, parfois au niveau de la santé, et dont ils n'osaient pas parler à des professionnels qui pourraient régler ça, en pensant qu'ils n'avaient pas le temps de le régler. Et donc là, c'est là que nous, on intervenait, où on s'assurait que c'était bien noté et qu'il y avait vraiment un suivi derrière de cette personne.
Ils nous ont vraiment laissé notre place dans l'EHPAD. Quand ils avaient besoin de nous, on les aidait, mais ils nous ont beaucoup laissé de liberté, ils nous ont beaucoup laissé nous rapprocher des résidents, ne pas forcément suivre la routine qui était prévue pour prendre le temps avec les résidents. Et ça a bien fonctionné, parce que les résidents nous l'ont vraiment dit, nous l'ont fait savoir. Ils nous ont même demandé, pour tous les EHPAD, je crois, s'il y aurait d'autres volontaires qui viendraient après, si la mission se terminerait là, parce qu'ils espèrent qu'il y en ait d'autres, et on leur a dit qu'on ne savait pas encore. On espère qu'on a donné envie à d'autres promos de pouvoir venir, c'est ça.
Ça a été une super expérience. Qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Effectivement, il y a beaucoup d'adaptations à avoir, mais en même temps, c'est un petit peu comme... c'est un peu comme animer aussi avec des enfants. Quand un enfant ne veut pas faire... Comme on veut, on s'adapte et on fait les choses. Et une personne, du coup, qui aurait des troubles, c'est pareil, il faut s'adapter. Et malgré ça, je tiens à dire quand même que certaines personnes qui faisaient partie de l'unité de l'EHPAD m'ont reconnue, parce que du coup, après des vacances, j'avais attrapé le Covid. Donc j'ai eu 3 semaines où je ne les ai pas vues. Et une personne qui avait Alzheimer, en me voyant, m'a dit « ça fait super longtemps que je ne t'ai pas vue ». Et donc juste ça, je me suis dit, il y a vraiment un impact, notre mission, elle a vraiment son poids, quoi, sur la vie quotidienne qu'ils ont là-bas.
Souvent un peu laissés pour compte, et qui subissent un peu une mauvaise presse, pas vraiment méritée dans leur EHPAD, ils ont besoin de soutien, plus que jamais avec le Covid d'ailleurs. Et on espère que d'autres gens continueront ce qu'on a entamé, et continueront à aller les voir, parce qu'on sait que ça leur fera beaucoup de bien. Ils nous l'ont dit, l'équipe nous l'a dit, on le pense, on le sait. Et si ce sont d'autres jeunes qui peuvent reprendre le flambeau, on espère qu'on aura donné de bons conseils et qu'on aura laissé de bonnes marques pour que ça se passe encore mieux. faut s'adapter, faut être à l'écoute, faut prendre beaucoup de temps, faut être patient. Et une fois qu'on s'est bien adapté, une fois que la routine s'est créée aussi pour nous, une fois qu'on fait partie de leur vie, c'est franchement une super expérience. Une fois qu'on les connaît, une fois que vraiment le lien s'est créé, on n'a plus qu'à profiter de ces moments-là avec eux.
C'est un esprit assez familial. C'est que ben ils s'entraident, ils sont assez solidaires entre eux, que ce soit avec les équipes et même le lien qu'ils ont avec les personnes âgées. Donc aussi, ils prennent à cœur de nous accueillir et de nous accompagner quand on a des questions. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ben, quand on a des doutes, et ben on n'a pas cette crainte d'aller les déranger pour nos questions, alors que quand ils sont occupés en chambre pour des soins, ben voilà, on attend puis quand on attend que c'est un moment plus calme, et ben voilà, ou quand par exemple quand c'est des animations, ben on va dans les étages puis on demande est-ce qu'il y a des résidents qu'on peut descendre pour les animations et tout, enfin on essaie vraiment de ne pas hésiter quand c'est vraiment le bon moment. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que bah ils prennent le temps aussi pour nous quand on a des interrogations et que bah ils prennent à cœur aussi de nous accompagner au mieux qu'ils peuvent aussi. Même eux, ils le ressentent, ils voient bien que bah il y a des choses qui se sont passées au moment où on était là. Donc je pense que quand on va partir, ça va faire un énorme vide, tant que pour eux que pour nous, que pour les résidents surtout. Parce qu'il y en a, ils commencent un peu à être tristes, alors nous, qu'est-ce que ça va être au dernier jour? On va tous se mettre à sortir les mouchoirs.
On n'a pas eu besoin de temps d'adaptation pour rentrer vraiment dans l'équipe et auprès des résidents de ce côté-là. Le temps d'adaptation, il s'est passé plutôt pour nous, pour se faire à la mission, pour se faire à l'idée qu'on va aller tous les jours en EHPAD. Surtout qu'il faut dire que ça fait un petit peu peur quand on est jeune de se dire je vais aller tous les jours auprès des personnes âgées, dans un milieu médical où la mort est malheureusement un sujet assez présent. En fait, non. En fait, il n'y a pas toutes ces craintes qu'on a pu avoir. C'était franchement très bien de ce côté-là. Et j'espère que ces personnes âgées auront la chance d'avoir d'autres jeunes pour les soutenir.
C'est en tout cas l'objectif, puisque de prochaines missions devraient être proposées d'ici quelques mois. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter l'antenne d'Unicité en Mayenne. Je vous propose d'écouter Bâton Rouge de Palatine et ensuite on reviendra avec un coup de cœur littérature d'Amir Anjou.
There she moves behind in the distance by sais, je l'ai lui dit à regret. Et à mesure que je bouge, il voit dans le lointain bâton rouge.
Sur l'autre radio, dans l'agité du local. Et tout de suite, on va passer, comme chaque lundi, un coup de cœur littérature, et plus précisément aujourd'hui, un coup de cœur BD avec François.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une BD en one-shot de la nouveauté, de l'adaptation de Richard Wagamese, ou Wagamese, selon qu'on prononce, c'est un amérindien, qui s'appelle Les étoiles s'éteignent à l'aube, adapté par Vincent Turenne chez Sarbacane. C'est pour moi une BD qui m'a beaucoup touché, avant de vous raconter l'histoire. Hein. C'est une BD qui... Enfin, déjà, le texte de base est d'une grande sensibilité. Ça amène des sujets durs, ça, et Vincent Turenne l'a adapté d'une manière brillante. Alors, de quoi ça parle ? C'est l'histoire d'un jeune Amérindien qui s'appelle Starlight, qui donc ça se passe au Canada, qui n'a jamais connu son père, qui n'a jamais été présent pour son éducation plutôt. Son père, il sait qui c'est un alcoolique du village. Il est élevé par un homme qui est très droit, qui tient une ferme, qui est vraiment dans l'honnêteté, et on va le comprendre pourquoi à la fin d'ailleurs. Petit spoiler. Et en fait, son père appelle Starlight à son chevet parce qu'il a une cirrhose plus. Donc son père a des origines aussi amérindiennes. Il y a une tradition chez les Amérindiens d'aller mourir dans la montagne, d'aller mourir comme un guerrier, de se faire enterrer dans la montagne auprès des esprits, auprès de la nature. Et ce père alcoolique qui a vraiment été très peu là pour son fils, à part des trucs anecdotiques, mais il a fait plus de mal que de bien. Va appeler Starlight et va lui dire « Je sens que je vais mourir, j'ai besoin de toi, viens avec moi dans la montagne, je vais te raconter l'histoire de ta mère, parce qu'il ne le sait pas forcément, et tu m'enterras comme un guerrier. » Alors c'est très fort comme histoire, parce que c'est une histoire de transmission, de voyage, on apprend des petites choses sur la survie aussi, parce que bon, bah, ça se passe pas forcément très bien. Et voilà, c'est une histoire entre un père et un fils qui n'arrivent plus à se comprendre, et sur les deux derniers jours, bah, ils arrivent finalement à se comprendre, enfin, ils essayent du moins. Et c'est une très belle adaptation, donc cette BD s'appelle « Les étoiles s'éteignent à l'aube » de Richard Wagamese, adapté par Vincent Turenne chez Sarbacane. Donc ça a été adapté en livre chez 10-18, et il y a la suite aussi qui s'appelle, je ne sais plus, mais qui se passe 20 ans après, qui est sortie aussi cette année. Donc voilà, c'est une très bonne BD à découvrir absolument. C'est brillant. Moi j'ai eu beaucoup d'émotions à la lecture en fait.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, ou et sur l'autre radio.
Et oui, avec toutes les références à retrouver sur l'autreradio.fr et une chronique inédite, elle, qui sera diffusée en l'occurrence demain matin, mardi matin, à 7h30. On va passer à notre feuilleton de cette semaine. Et oui, vous le savez sans doute, c'est le premier jour des vacances scolaires d'ici, en tout cas de cette zone B. Et c'est l'occasion de faire un petit tour des idées d'activités ou d'animations pour les grands et les petits. Et en l'occurrence aujourd'hui, plutôt pour les grands, en l'occurrence les ados et les adultes, avec cette exposition interactive proposée à la médiathèque de Château-Gontier jusqu'au 26 février. Exposition qui s'appelle Lux in Tenebris, où vous partez à la recherche du meurtrier dans un village médiéval. On a testé avec Mélanie Ablin, responsable du secteur audiovisuel à la médiathèque de Château-Gontier.
Vous n'avez qu'à les mirer, les pauvres âmes. Vous, vous les fouinez sur le coupable ?
J'en suis pour sûr. Qui observe un mort, et je lorgne l'autre. Entendu ?
C'est une exposition qui va vous emmener au fin fond du Moyen-Âge, dans une atmosphère un peu ténébreuse, pluvieuse, pour essayer de résoudre un meurtre. En fait, il faut prévoir une heure de son temps. On vous prête la tablette sur laquelle il y a l'application, et ensuite vous allez naviguer de panneau en panneau pour tenter de découvrir ce meurtrier dans ce village au Moyen-Âge. C'est la BD Phébus, adaptée de la BD Phébus, donc dans l'univers historique du Moyen-Âge, donc c'est entre thriller médiéval et puis historique également. Hein. Alors on est pas mal guidé par Cyr Froissart qui nous accompagne, et donc on va vraiment déambuler de panneau en panneau, on va interroger les habitants du village, on va également voir les corps des morts qu'on découvre dans ce village et tenter de découvrir, en interrogeant les personnages, le meurtrier, et au fur et à mesure, le Cyr Froissart nous fait le point, on se rend compte de l'évolution et des preuves qui nous amènent au meurtrier. On le découvre à chaque fois. On va plutôt partir sur un public ado-adulte, donc d'une part parce qu'il faut une heure de temps, deuxièmement parce que c'est un langage du Moyen-Âge, donc il faut quand même écouter et comprendre ce que l'on nous dit, et puis aussi parce que bon, ça reste un petit peu une ambiance ténébreuse, avec des meurtres et des cadavres, donc bon, ado-adulte.
Juste d'essorber une fille comme elle. Et Brunehilde, ce qui me fait mal dans le cœur, c'est que je lui ai demandé de rapporter le linge au château à ma place pour retourner labourer à l'auberge. Je fais le lâche parfois.
Avec les indices qu'on trouve, l'explication sur l'histoire du village, en interrogeant tous les personnages, on va avoir quand même des preuves qui vont nous guider vers le coupable. Mais même si on se trompe, on n'est jamais loin de la vérité, vous allez voir. C'est vraiment de pouvoir proposer quelque chose qui change d'habituellement, d'interactif. Donc avec la tablette, c'est quand même une approche différente d'une exposition. On est acteur, donc ça c'est pas mal aussi. C'est vraiment ce qu'on aime proposer maintenant, en tout cas nous, dans nos animations et dans ce qu'on propose dans notre salle d'exposition.
Vous connaissez la nouvelle, n'est-ce pas ?
Mes condoléances, Cola, dans cette épreuve.
En tout cas, ce meurtrier qui se cache par là. Si je sais qui c'est, mon père, je l'ai verve à coup de masse.
Alors c'est vraiment le côté immersif qui m'a plu. On a le casque, on a le son, il pleut, on nous parle voilà, en langage du Moyen-Âge, donc c'est vraiment ce côté-là qui m'a plu. Après, c'est vrai que une heure, il faut avoir le temps. Et il faut aussi écouter, donc faut aussi prendre le temps d'écouter les indices qu'on nous donne, malgré le fait que ce soit interactif.
Cyr Froissart, allons en cuisine. Peut-être le ciel nous montrera le chemin vers la vérité.
Et peut-être le trouverez-vous vous aussi en participant justement à cette exposition interactive qui reste donc jusqu'au 26 février à la médiathèque de Château-Gontier. Elle sera ensuite dans une autre médiathèque puisqu'elle tourne en fait dans le département et elle est prêtée par la bibliothèque départementale de la Mayenne. Et puis donc plus proche de nous, pas forcément aussi loin dans le temps, et bien dès jeudi, il y a un atelier Jeudi de Georges dans la même veine, dans le même univers, puisqu'on vous propose de fabriquer votre blason. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour aujourd'hui, pour lundi. Mais restez avec nous puisqu'à 19h, il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque de Zélie ce soir. Et à 21h, retrouvez l'Aléatoire. Et nous, on se retrouve demain à 12h15 comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle journée.